Je me demande si parmi vous, il y en a qui ont un peu suivi les commémorations du D-Day, du jour J. Il y en a qui ont un peu... Il y en a qui sont passés à travers, complètement. Vous ne savez même pas ce que c'est. J'ai eu l'occasion de regarder quelques passages de la cérémonie. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que quand on s'habitue à quelque chose, la chose ne nous fait plus chaud ni froid. Et je pensais à ces jeunes Canadiens, ces jeunes Américains, ces jeunes Anglais qui sont venus se faire mitrailler comme de la chair à saucisse sur les côtes de Normandie pour des gens qu'ils n'avaient jamais vus. Des gens qui parlaient pour la plupart un langage différent. Et je me demandais combien de Français aujourd'hui seraient prêts à se faire sacrifier pour des principes de liberté sur des terres inconnues. Et j'étais bouleversé de penser que mes enfants, mes garçons, est-ce que je les laisserais partir pour aller défendre la liberté ailleurs? Et j'étais surpris qu'en fait je trouve tout à fait normal que chaque année on en parle un petit peu. Il y a ces gens qui ont débarqué pour nous sauver, venir sauver la liberté en France, lutter contre le régime nazi. Et on trouve ça normal. Ils sont venus nous libérer. En plus, nous, avec les galeries Lafayette, Lafayette avait été la révolution en 1786 ou 1769. Il y a très longtemps, les Américains nous devaient bien quelque chose. Et j'étais surpris de voir combien ça a été un peu ravivé par des discours, par des cérémonies, par la présence de vétérans. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, il y a des passages qu'on a l'habitude de lire. Et puis, ils ne nous font vraiment ni froid ni chaud. On sait que les chrétiens sont supposés être remplis d'amour. Aimez-vous les uns les autres, à ceci le monde verra que vous êtes mes disciples. D'accord, ouais. Mais Dieu va plus loin dans ce qu'il attend de nous. Il nous dit d'aimer nos ennemis. Quand je vous dis d'aimer vos ennemis, je ne sais pas si vous avez des gens auxquels vous pensez concrètement. Peut-être des gens avec qui vous entendez pas bien, vous avez eu des petites disputes. Mais pensez à ces chrétiens qui sont persécutés par Boko Haram. À ces juifs qui étaient persécutés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aimez vos ennemis. Les commandes impossibles. On a déjà du mal à aimer sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis, ses voisins, les gens dans l'église. Aimez vos ennemis. Il y a une expression, certains l'attribuent à Saint Augustin. Peu importe qui l'a dit le premier, c'est en fait un commentaire sur la Bible. Rendre le mal pour le mal, c'est humain. Rendre le bien pour le bien, c'est humain. rendre le mal pour le bien, c'est démoniaque. Et puis, rendre le bien pour le mal, ça, c'est divin. Ça ne va pas de soi. C'est complètement contraire à la logique humaine, à notre façon naturelle de penser. La Bible parle beaucoup de ce sujet. L'idée d'aimer son prochain comme vous-même. Souvent, on pense que ça vient de Jésus dans le Nouveau Testament. En fait, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Il y avait cette citation de d'aimer votre voisin comme vous-même. Jésus, dans le psaume 109, c'est un psaume messianique, au chef de cœur, psaume de David, Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche béante, une bouche rusée, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de paroles haineuses et me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils m'accusent. Mais moi, je recours à la prière, ils me rendent le mal pour le bien. Et de la haine pour mon amour. Psaume 109, versets 1 à 5. Paul, dans Romains 12, dira « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » On a dit que ça, c'était humain. De même que de rendre le bien pour le bien. Il continue dans Romains 12, 17 à 21 « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance ». C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Plus loin dans le Nouveau Testament, on verra Pierre dans 1 Pierre 2 qui va nous dire serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est en effet à cela que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Rendre le mal pour le mal, rendre le bien pour le bien, c'est humain. Rendre le mal pour le bien, c'est démoniaque. Rendre le bien pour le mal, c'est Dieu qui fait ça. Dieu a aimé tous les hommes, car il a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, que Christ est mort pour nous. Jésus a déjà demandé à ses disciples, dans ce sermon sur le plateau ou sur la plaine, qui ressemble au sermon sur la montagne, il nous a donné 4 béatitudes, 4 attitudes qui nous rendent en adéquation, en acceptation pleine et entière de Dieu, la pauvreté, la faim, le chagrin, le rejet. Et il nous dit, vous êtes bénis, vous êtes, quand vous êtes pauvre. Dans Matthieu, on voit que c'est surtout le sens spirituel. Vous êtes bénis lorsque vous avez faim, faim et soif de justice, nous dit Matthieu. Lorsque vous pleurez maintenant, vous allez être dans la joie plus tard. Lorsque vous êtes rejeté, vous êtes aussi béni, car c'est ainsi qu'on traite les prophètes à cause du Fils de l'homme. Et puis, il nous dit qu'en fait, la vie chrétienne, c'est une vie où la gratification est repoussée dans le temps. Si vous avez faim maintenant de justice, vous avez soif de justice, vous allez être satisfait un jour. Peut-être aujourd'hui, mais peut-être plus tard. Mais est-ce que vous êtes prêt à croire aux promesses au point d'attendre leur accomplissement sans douter de ce que Jésus vous demande? Et à l'inverse, ceux qui trouvent tout leur bonheur, entre guillemets, ici-bas, c'est tout ce qu'ils vont obtenir. Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les larmes. Malheur à vous si on parle bien de vous, parce que c'est ce qu'on faisait pour les faux prophètes. Donc c'est déjà, lorsqu'on entend pour la première fois ce message, et c'est vrai, notre problème c'est qu'on l'a entendu si souvent, notre société l'a entendu si souvent, que on trouve ça normal, même si on ne met pas ça du tout en pratique dans nos vies. Mais à partir du verset 27, Jésus monte la barre encore un peu plus haut. Lisons ensemble les versets 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le verset encore, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quand on entend ces paroles, ces exhortations de Dieu, ces ordres, ces commandements, on est bouleversé. On se dit, ce sont des commandes impossibles. Si on est honnête, on se dit, c'est impossible. Jésus parle à ses disciples, pas seulement les 12, mais les disciples qui sont venus parce que lorsqu'on annonce quelque chose d'aussi bouleversant, on attire l'attention des gens. Lorsque l'on obéit à ses commandements, le monde est stupéfait. C'est un terrain sacré. On n'a pas grand-chose à ajouter. Il s'adresse à ceux qui écoutaient. Il faut écouter bien. Parce que, comme je le disais, on peut avoir du ronron chrétien. Ronron, c'était la marque d'un pâté pour chat dans le passé. Je ne sais plus si ça existe. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous savez qu'en grec, il y a plusieurs mots pour le mot amour. Il y a le mot j'aime, qui c'est la traduction du mot storgéo, qui est l'amour filial, qui est l'amour que l'on éprouve les uns les autres dans une famille normale. Paul, dans Romains, va dire qu'on n'a même plus cet amour dans la famille. On peut se déchirer dans nos propres familles. Puis il y a le mot eros, l'amour érotique, l'amour romantique, l'amour dont Hollywood s'est fait le champion. Le mot n'est pas utilisé dans la Bible. Il y a un autre mot qui est utilisé, c'est le mot philéo, qui est l'amour fraternel, l'amour des camarades, l'amour des amis. Et puis il y a cet autre mot pour lequel les auteurs de l'Évangile ont dû fabriquer le mot agapé, agapéo. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui trouve sa source non pas dans, qui trouve sa raison non pas dans l'objet, mais dans la source. Si vous pensez à un joli torrent de montagne, il déverse de l'eau. Cette eau arrive sur la côte, sur les villes côtières, les industries, les gens, la saleté de la ville sont ajoutées à cette eau et elle se retrouve jetée en mer comme un flot d'eau boueux. Et on peut se dire que si la source savait ce qui vient de ces eaux, ce qu'il advient de ces eaux, elle se donnerait même plus la peine de couler. Mais la source, elle continue de donner de l'eau pure et belle. Pourquoi ? Parce qu'elle est une source. Le Boréon, il ne dépend pas de l'utilisation de l'eau qui est faite à Nice ou à Rimiers, il dépend de la source qui donne cette eau. L'amour agapé, c'est l'amour qui est inconditionnel, il trouve sa raison dans la source, il ne peut pas faire autrement que d'aimer, de déverser de l'amour. Ça, c'est l'amour divin. C'est l'amour qui fait qu'un Dieu a pu mourir pour des pécheurs. C'est l'amour qui fait que Dieu aime les gens qui sont dans Boko Haram aujourd'hui. Dieu aime tous les hommes. Nous, on établit des échelles, on se dit « Oh, c'est horrible ce qu'ont fait les nazis, ce que font Boko Haram ou tout autre criminel sanguinaire. » Mais moi, je suis une bonne personne. Jésus, on sait qu'il a relevé la barre, un peu comme quand on saute à la perche, là. À chaque fois, on met un peu plus haut. Il a dit, si vous traitez votre voisin d'imbécile, c'est comme si vous le tuiez, comme si vous commettiez un meurtre. Vous assassinez sa réputation. Vous le cassez, comme dirait Jean du Jardin. C'est un amour divin et c'est un amour dont les hommes sont totalement incapables. Nous avons besoin de l'Esprit Saint dans nos cœurs pour pouvoir donner cet amour au monde. C'est impossible à l'homme, mais tout est possible avec Dieu et Dieu peut déverser dans nos cœurs cet amour agapé par l'Esprit Saint. Si vous en doutez, mais si vous croyez que la parole et la vérité, je vous invite à encadrer, à souligner, à mémoriser le verset 5 du chapitre 5 de Romains. On va lire les versets 1 à 5, 1 à 6, 1 à 7, 1 à 8. On va s'arrêter à 8. Étant donc justifié, déclaré juste, accepté, reconnu comme digne d'entrer dans le royaume de Dieu, dans l'éternité avec Dieu, dans le paradis, dans l'éternité de félicité, étant donc justifié par la foi, pas par nos bonnes actions, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La grâce, c'est l'amour qu'on ne mérite pas, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, dans les souffrances, dans les persécutions, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, et c'est là que je vous demande de souligner, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est la clé. Si vous rejetez le Saint-Esprit, si vous contentez d'action humanitaire sans la dimension spirituelle du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aimer vos ennemis. Vous ne pouvez pas faire du bien à ceux qui vous maltraitent, vous ne pouvez pas parler en bien de ceux qui vous méprisent et vous insultent. Et là, il prend l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Jésus est mort pour des gens qui rejetaient Dieu, qui ne cherchaient pas à lui plaire, des gens qui le méprisaient, qui le maudissaient. Et puis il ajoute, c'est toujours cette même idée, de savoir que aimer ceux qui nous font du bien, c'est pas un exploit. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Ça se trouve. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort lorsque nous étions des pécheurs qui le méprisions, qui le maudissions. Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Ces commandes impossibles, elles ne peuvent pas être accomplies naturellement par la nature humaine. Elles demandent cette puissance surnaturelle qui vient de l'Esprit-Saint. Et ces actions, l'obéissance à ces commandements, ça montre que vous êtes branchés, que vous êtes connecté à Dieu, que vous avez été accepté, que vous êtes sauvé. En dehors du Saint-Esprit dans vos cœurs, vous êtes absolument incapable de faire le début du moindre de ces commandes impossibles. Or, vous pouvez vous persuader qu'en serrant les dents, vous allez arriver à dire un petit mot aimable à la collègue que vous détestez. Mais ça va vous coûter beaucoup et ça ne va pas durer. Encore une fois, peut-être que vous dites « j'ai aucun ennemi ». Si vous parlez de Jésus autour de vous, vous allez avoir des ennemis. Pas à cause de vous, mais à cause de lui. Si au lieu de faire des bonnes actions pour qu'on vous dise « Oh, qu'est-ce que t'es gentille !» Mais vous engagez à dire « C'est pas moi, c'est Jésus qui agit en moi. C'est l'Esprit-Saint de Dieu qui agit en moi. » Ça va pas vous faire des amis, généralement. Mais ça va provoquer des réactions et c'est ce dont le monde a besoin. Des électrochocs. Je suis sûr que dans quelques temps, on aura des témoignages de personnes, de chrétiens remplis de l'Esprit-Saint qui ont aimé leurs ennemis de Boko Haram. On en a pour la persécution nazie. Vous avez probablement entendu parler de la Hollandaise Corrie ten Boom. Elle a écrit des livres. Elle et sa famille ont été déportées à Ravensbrück, un camp de la mort. Elle a écrit de très beaux livres montrant sa foi en Dieu. Elle a remercié Dieu pour les puces qui étaient dans son lit parce qu'elle avait une Bible cachée sous son oreiller. Parce qu'il y avait tellement de puces, les geôliers ne venaient pas voir. Ils venaient pas faire le ménage. Ils venaient pas fouiller dans son lit et elle a remercié Dieu de ses puces. Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est que plusieurs années après la fin de la guerre, après avoir perdu sa mère et une sœur sur la torture nazie à Ravensbrück, elle a réussi à prendre contact avec leur geôlier, un de ses capots, un de ses gardiens dans les camps de la mort. Et elle a demandé à le voir, en lui disant qu'elle avait pas de elle voulait pas lui faire du mal. On peut imaginer que l'homme était très inquiet. On sait qu'en fait, il avait beaucoup de remords de réaliser qu'il avait commis tant de meurtres sur des gens innocents, sur des gens sans défense. Mais cette femme, Corrie ten Boom, a pu regarder ce bourreau de sa famille, ce bourreau d'elle aussi dans sa vie dans le camp, et lui dire que elle le pardonnait. Le résultat, c'est que l'homme s'est effondré, il a pleuré et il s'est rapidement converti à la foi chrétienne. Parce qu'il avait vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de cette femme. Peut-être que nous n'avons pas des gens auxquels nous pensons qui sont des ennemis à ce point. Mais peu importe, nous avons besoin de l'Esprit Saint dans nos cœurs pour pouvoir déverser cet amour qui ne dépend que de sa source et non pas de son objet, non pas des gens qui le reçoivent. Heureusement, encore une fois, c'est ce que Paul nous dit, heureusement que Dieu n'a pas attendu qu'on soit digne de son amour. Souvent, on attend que les gens se demandent pardon pour les pardonner. On attend qu'ils soient dignes de notre amour. Il y a même, et c'est vraiment une perversion diabolique, l'idée que c'est une faiblesse que de pardonner, que c'est un droit absolu de garder de la rancune, de se venger, de faire du mal à l'autre qui nous a fait mal. Le mal pour le mal, c'est humain. Le bien pour le bien, généralement, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais rendre le bien pour le mal, il faut l'Esprit Saint de Romains 5:5. Cet amour agapé qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut aimer nos ennemis. Alors là, c'est l'influence d'Hollywood. On pense qu'aimer, c'est avoir des sentiments. Des sentiments, des effusions dans nos cœurs pour l'autre. Ça, c'est l'amour érotique. C'est l'amour éros, c'est l'amour romantique. Je t'aime pour ce que tu me donnes. L'amour fraternel, c'est je t'aime parce que j'aime bien être avec toi. On fait des choses sympas ensemble et j'aime ça. Mais l'amour agapé, c'est je t'aime parce que j'ai décidé de t'aimer. Dieu nous commande d'avoir cet amour pour nos ennemis. On dit oui, mais j'arrive pas, je peux pas avoir ces sentiments. Mais qui vous a parlé de sentiments? Ça, c'est encore une fois la faute d'Hollywood. C'est pour ça que les gens divorcent au bout de 3 ans. Parce qu'il n'y a plus la chaleur des sentiments. Aimer, c'est pas passif. Aimer, c'est un verbe d'action. Aimer, ça veut dire faire des actes qui montrent de l'amour. Et on n'a pas besoin de ressentir de l'amour pour faire des actes qui montrent qui appartiennent à la catégorie des gestes de l'amour. Ça, c'est la clé aussi. Aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire que je dois attendre que oh, j'aime Hitler. Oh, cette petite moustache et cette grande mèche. Non, aimer, ça veut dire je lui donne à manger, je lui donne à boire, je fais des gestes qui sont réservés normalement, humainement, à ceux qui nous font du bien. C'est ça, aimer vos ennemis. C'est ce qu'il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je l'ai déjà partagé, mais il y a une expression provençale du sud de la France qui, lorsque deux jeunes gens sont intéressés l'un par l'autre, tombent amoureux, on tombe amoureux, c'est la fatalité, on n'y est pour rien, on n'a pas volontairement, non, on tombe amoureux, et les gens ici disent il lui veut du bien ou elle lui veut du bien. Ça, c'est naturel. Quand on aime quelqu'un, qu'on a les sentiments, on veut faire le bien. Mais là, il dit faites du bien. Il n'y a pas l'accent, Jésus, hein. Mais peut-être, qui sait. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est un mot qui me fait me hérisser. Haïsse. Qu'est-ce que c'est que ça? La haine. La haine, c'est un mot qu'on ne peut pas dire en souriant. Hatred, haine. Faites du bien. Faites des bonnes actions envers cela. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce qu'il y a des gens qui vous maudissent? Reposons la question. Est-ce que vous conduisez en voiture? Ah. Pas plus tard que vendredi dernier, j'étais en voiture, il y avait un motard avec un passager qui faisait beaucoup de bruit sur sa moto au feu rouge. J'avais vu déjà qu'il circulait un peu partout. Et lorsque le feu est passé au vert, j'ai accéléré. Et il a pas pu me doubler tout de suite. Quelque part, j'étais content. Tout ça pour arriver à un feu qui n'est pas passé au vert au même moment. Et j'ai dû m'arrêter. Et lui m'a dépassé et il m'a fait un petit geste amical. Il m'a fait un petit geste amical. Il m'a maudit par son geste. Alors je l'ai pas béni, mais j'ai dit c'était pas personnel, c'était la moto. Enfin, mais il m'a pas écouté, il m'a pas entendu, et je me suis vraiment senti comme un imbécile. Et puis je me suis dit tiens, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis. Heureusement, il n'est pas passé à l'étape suivante, il ne m'a pas maltraité, il aurait pu descendre et venir frapper à ma portière. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce qu'il y a des gens qui vous maltraitent? Des gens dont vous savez qu'ils disent du mal de vous, des gens qui font tout pour que les choses n'aillent pas bien de votre côté. Priez pour ceux qui vous maltraitent. J'aime bien que c'est, il y a une gradation, une augmentation. Aimez, faites du bien, bénissez, priez. La prière, c'est pas de la gnognotte. Le chrétien moyen, la prière, oh, c'est ce qu'on fait parce qu'il faut prier. On sait que c'est important, mais c'est pas notre première pensée. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je suis sûr qu'au Nigeria, il y a des chrétiens qui prient pour beaucoup, les gens prient dans la secte de Boko Haram. Et puis, il nous dit de ne pas nous livrer à des représailles. Notre tendance naturelle, c'est on me fait quelque chose, je réagis de la même façon, généralement un peu plus. La loi du talion qui disait œil pour œil, dent pour dent, on pense souvent que c'est cruel, qu'au lieu d'être des bons petits chrétiens, on nous dit si quelqu'un te prend ton œil, tu lui crèves son œil. S'il casse une dent, tu lui casses sa dent. En fait, la vraie raison de cette loi du talion, c'était pour pas qu'on aille au-delà. Parce que notre tendance, c'est lorsqu'on nous prend un œil, c'est d'enlever les deux à l'autre. Si on nous casse une dent, c'est de venir avec un dentier pour l'autre. Généralement, c'est l'escalade de la violence. Et c'était le bienfait de la loi du talion, c'est que ça limitait les réactions. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. La règle d'or, verset 31. Souvent on dit la règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fait les règles. C'est vrai, mais la vraie règle d'or, c'est de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Cette règle d'or, elle existe depuis longtemps dans la pensée humaine, mais elle était toujours exprimée de façon négative. Ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'ils vous fassent. Là, ça va au-delà, c'est Jésus qui enseigne ses disciples. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le d'abord aux autres. Et puis, il y a ce verset qui est très mal compris, qui est complètement mal interprété pour la plupart des commentateurs, ou des gens en général. Si on te frappe sur une joue, tu dois lui présenter l'autre joue. Ça veut dire que si on envahit ton pays, tu ouvres la maison et tu donnes tout à ton ennemi. S'il prend tes filles, tu lui donnes aussi ta femme et ta cousine. Ça a donné une fausse idée de ce que c'est qu'être un chrétien. Selon cette mauvaise interprétation, le chrétien n'aurait pas le droit de se défendre, de défendre sa famille, de se battre contre un ennemi. C'est complètement faux. Mettez-vous ça dans la tête. Quelqu'un te frappe sur une joue, c'était un geste de mépris. Aujourd'hui ou plus tard, après, on jetait son gant à quelqu'un, c'était une insulte. Ce qui nous est dit ici, c'est si on t'insulte, n'insulte pas en retour. Mais le chrétien est tout à fait légitime dans la défense de sa famille, la défense de ses biens, la défense de son pays. C'est un verset, malheureusement, qui présente les chrétiens comme des gens sur lesquels on peut faire n'importe quoi. Et c'est pas du tout ce que nous dit la parole. C'est pas du tout ce que dit ce texte. Parce que si quelqu'un te prend ton manteau, tu le laisses prendre ta tunique, si tu donnes tout à ce qu'on te demande, il suffit de passer dans la rue, il y a des files de mendiants, je vais plus avoir d'argent pour ma famille. Donc c'est dans l'attitude du cœur. C'est l'idée de pas se livrer à des représailles, c'est l'idée aussi de donner généreusement. Si on te demande ton manteau, tu peux donner autre chose. Est-ce que je suis généreux, inspiré par l'Esprit Saint, ou est-ce que je suis pingre et radin, que je ne donne jamais rien ? C'est une invitation à la générosité, non pas à la pauvreté ou à la destitution. Quelle est la limite de ce que je peux donner? La réponse est très simple. C'est agapé. C'est l'amour. Si je donne à un mendiant, si je vide mon compte en banque pour donner l'argent à un mendiant, est-ce que j'ai aimé la personne? Elle sera contente. Mais ma famille n'aura plus rien pour vivre. On va se retrouver à la rue, on va se joindre au SDF. Est-ce que c'est de l'amour? Non. La règle, c'est encore une fois cet amour agapé qui aime l'autre, mais qui vient de Dieu et qui vient de Dieu avec sagesse. Et puis, le verset 31, c'est la clé, cette règle d'or, traitez les autres comme vous voulez être vous-même traité. Un autre principe, c'est qu'on donne sans attendre rien en retour. Encore une fois, il à partir du verset 32, il explique que faire du bien à ceux qui nous aiment, ça n'a rien d'un exploit. Big deal, comme on dit en anglais. Tous les hommes font ça. Des fois, on donne de l'argent, mais on prête, sachant que l'autre va pouvoir nous repayer. Si quelqu'un vous demande votre voiture, vous vous dites si jamais il détruit ma voiture, il a quand même un job, peut-être qu'il sera en mesure de me donner une voiture dont je peux lui prêter. Les pêcheurs prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Dans la mafia, ils s'aiment bien. Oh, oncle Luigi, tu m'as donné ta maison, tu peux prendre la mienne. Les gens dans le monde sans Dieu peuvent s'aimer les uns les autres si on leur fait du bien. S'ils se font du bien, c'est rien de spécial. Et puis il dit, aimez encore vos ennemis, verset 35. Faites du bien, prêtez sans rien espérer, votre récompense sera grande. Gratification différée. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Le Seigneur fait lever le soleil sur les bons comme sur les mauvais. La mafia a de l'oxygène comme les bons citoyens. Il est bon pour eux. Et vous serez fils du Très-Haut. On saura que vous êtes les fils du Très-Haut parce que, encore une fois, Ce genre d'amour pour les ennemis, il n'y a que Dieu qui peut l'inspirer. Et puis, Jésus, au partir du verset 36, nous enseigne un principe fondamental, un principe qui régit l'univers. Waouh ! C'est pas le deuxième principe de la thermodynamique qui nous dit que le désordre s'agrandit toujours, on sait ça. Il nous dit, ce que vous semez, vous allez le récolter. Si vous êtes miséricordieux, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez pardonné, c'est ce que veut dire absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera, et on versera dans votre sein, c'est-à-dire dans votre tablier, on vous donnera encore plus que ce que vous avez donné. C'est un principe universel que l'on retrouve sous la plume de l'Esprit-Saint lorsque Paul déclare dans Galates 6, voulez-vous y tourner ? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, gratification différée, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le principe de la récolte. Il y a trois vérités qui accompagnent le principe de la récolte. C'est qu'on récolte la même production qu'on a plantée. Si on sème de l'amour, on va récolter de l'amour. Si on sème de la haine, on va récolter de la haine. Si on sème du blé, on va pas recevoir des oranges, on va recevoir du blé. Ça prend du temps. Deuxième principe de la moisson va prendre du temps. C'est différé dans le temps, c'est pas instantané. Et troisième principe, et c'est là que ça fait peur, c'est qu'on sème, on récolte toujours plus que ce qu'on a semé. C'est ce qu'il est dit ici, là. Si vous êtes généreux, on va vous donner encore plus. Mais de la même façon, si vous faites du mal, vous allez recevoir plus de mal. C'est un principe universel, c'est un principe divin, le principe de la moisson. Et si vous faites cela, si vous aimez vos ennemis avec toutes ces facettes, vous allez recevoir la miséricorde de Dieu. Vous ne serez point jugé, vous ne serez point condamné, vous serez pardonné. On vous donnera des choses. Ça, c'est le verset que beaucoup de gens connaissent. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discerner ce qui est bien. Le mot veut dire condamné. On est appelé à apprécier les conséquences des gestes des autres et de les reprendre. C'est le seul verset que les non-chrétiens connaissent bien. « Oh, ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Hein. Je fais ce que je veux et qui tu es pour me juger ?» Il va continuer, Jésus, avec des paraboles, mais on va s'arrêter là. Rappelez-vous, la miséricorde conduit à la miséricorde, le jugement conduit au jugement, la condamnation entraîne la condamnation, mais le pardon conduit au pardon. La générosité entraîne la générosité. Aimons nos ennemis par la puissance de l'Esprit-Saint qui demeure en nous. Amen. Attention, c'est Pas évident, hein. Je vous invite cette semaine à mettre en pratique cet enseignement, à faire un geste d'amour, d'amitié envers quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous considérez comme un ennemi. Et peut-être que dimanche prochain, vous aurez quelque chose à nous raconter. Prions. Seigneur, il est facile de parler de ces choses, mais ô combien plus difficile de les mettre en pratique. Et Seigneur, je reconnais moi-même dans ma vie que ça m'est impossible au naturel, que j'ai besoin de ton Esprit Saint. Seigneur, bénis-nous par la présence de ton Esprit Saint. Viens sur nous, Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions être tes témoins. Parce que des gens qui aiment comme ça, Seigneur, c'est des témoins que personne ne peut arrêter, Seigneur. Te remettons cette semaine, te remettons nos vies. Et je prie, Seigneur, que tu nous encourages cette semaine à mettre en pratique cet enseignement pour voir que c'est tes promesses sont vraies, que si nous faisons ces choses, alors nous allons être bouleversés par la façon dont tu peux agir, Seigneur. Parce que c'est toi qui vas devoir agir pour que nous puissions faire ces choses. Sois glorifié. Encourage chacun, Seigneur. Aide-nous à penser à qui sont nos ennemis et à les pardonner et à les aimer, Seigneur. Amen.